Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Rosalie Suc, mais aussi Margot Le Ridon et Bertille Bourdon, réalisée par Anna Olvec et mise en onde ce matin par Élise Le. Nous poursuivons notre série consacrée à l'alimentation, se nourrir, vieux problèmes, nouveaux défis. Lundi, nous parlions des politiques internationales de lutte contre la faim. Hier, nous avons parlé des paysans, les premières victimes de la malnutrition. Demain, nous évoquerons les régimes alimentaires du futur. Et ce matin, on va s'intéresser à une pratique qui a le vent en poupe, le circuit court, rapproché, le champ de l'assiette, les promesses du manger local. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne vend pas simplement des blettes, on vend des blettes qui viennent de chez Monsieur Rian dans le 78. Donc derrière chaque achat, en fait, les clients peuvent identifier le producteur, d'où ça vient.
La philosophie de la coopérative, c'est la coopération, le développement durable et l'agriculture locale. Moins le produit est transporté, mieux c'est pour l'environnement.
Auparavant, en vendant à des grossistes ou à de la grande distribution, donc avec trois grosses enseignes, ça représentait environ 20 000 euros de chiffre d'affaires par an. Là, on est entre 80 et 100 000 euros. Donc on a multiplié par 4 notre chiffre d'affaires.
Nous voulons montrer au reste de la ville qu'il s'agit d'un autre secteur économique. Nous pouvons compter sur une industrie qui est saine pour nous tous et qui créera des communautés et du sens collectif.
De Paris à New York, de la France aux États-Unis, au nord comme au sud, les circuits courts se développent à une époque où le dérèglement climatique s'aggrave, où les écosystèmes se fragilisent, où la mondialisation est remise en cause. L'alimentation locale apparaît comme une réponse aux dérives d'un système productiviste à bout de souffle qui ne respecte ni l'environnement, ni la santé des individus et met les agriculteurs au banc de la société. Marché de producteurs locaux, agriculture urbaine, permaculture, paysans et entrepreneurs tentent de réinventer la production agricole pour reconnecter la ville au milieu rural, recréer du lien entre le consommateur et le producteur et répondre à la demande des citoyens désireux de se réapproprier leur alimentation. Alors l'alimentation locale peut-elle tenir toutes ses promesses ? Quels sont les résultats, les effets et les limites aussi peut-être de ces circuits courts ? Comment encourager leur développement ? Dans quelle mesure les circuits courts peuvent-ils aider à atteindre les objectifs d'une alimentation durable ? Et faut-il tout miser sur le local ? Le locavorisme a-t-il réellement toutes les vertus environnementales, économiques, sociales, politiques, la relocalisation de nos systèmes alimentaires sauvera-t-elle le monde? Voilà les questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité une géographe, Monique Poulot. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Géographe et ruraliste, vous aimez bien dire.
Oui, je tiens à cette appellation. Je pense que c'est un regard aussi un peu particulier sur toutes ces questions.
Ben c'est ce qu'on va voir ce matin et vous êtes professeur à l'Université Paris-Nanterre. Quand on regarde un peu les choses, justement, on voit un peu partout dans le monde des initiatives qui visent à rapprocher le consommateur du producteur avec des dispositifs qui font fi des intermédiaires, que ce soit les AMAP du côté de la France, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, que ce soit les CSA aux États-Unis, les Community Supported Agriculture, que ce soit les Teike au Japon, les coopérations. Ce manger local, c'est clairement aujourd'hui un phénomène global.
Oui, ça, je pense qu'on peut vraiment dire cela. Phénomène global, mais récent.
Depuis quand ?
Alors, si on prend ce que vous venez de citer, les Teike, ils sont sans aucun doute les plus anciennes. Là, on est dans les années 60-70, à partir notamment de l'alimentation pour les enfants. Mais le phénomène va se généraliser, pourrait-on vraiment dire, à partir des années 90. Et le grand tournant, c'est la décennie 2000, où l'on voit exploser le système avec une prise en charge par différents acteurs.
Et est-ce qu'on est aujourd'hui à nouveau à un tournant, Monique Poulot ? Parce que ces dernières années, on insiste de plus en plus sur les effets dévastateurs de la mondialisation. Beaucoup prônent d'ailleurs une forme de démondialisation. On voit bien que ce libre-échangisme, il est remis en cause. Alors de façon parfois très brutale, comme on le voit avec la guerre commerciale engagée par Trump. Parfois de manière, disons, plus douce, si je puis dire, avec par exemple la mise en veille de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Mais est-ce que vous avez l'impression que là, on est dans un moment qui est propice au développement de ces circuits courts ?
Alors, on est certainement à un tournant dans la mesure où les initiatives ont été jusqu'alors beaucoup d'initiatives, on pourrait dire, citoyennes. Et Il me semble que l'on est à un moment où des collectivités de toute taille, de toute importance, commencent à se saisir du problème. Je dis bien commencent, ça peut être 4 ou 5 ans, mais on voit apparaître des éléments importants sur ce que pourrait être une agriculture nouvelle et partant une alimentation nouvelle. Donc moi, c'est plutôt en ce sens-là, véritablement, que je trouve qu'il y a une sorte de tournant, c'est la prise en charge par des acteurs institutionnels. Bon, on pourra discuter de l'institutionnel, mais qui me semble une nécessité, puisque au final, les consommateurs ont eu un rôle important, mais ce rôle, il doit être à un moment assumé. Alors, je n'aime pas le terme institutionnalisé, mais il n'empêche qu'il est nécessaire qu'à un moment, il y ait des signaux forts de la part des pouvoirs publics.
On va parler évidemment de cette institutionnalisation, mais moi je parlais sur le contexte purement économique.
D'accord. Alors, le contexte économique, oui, bien sûr. Si on est sur cette logique de la planète brûle, pour faire vite, il est clair que l'alimentation locale offre des perspectives. Offre des perspectives à la fois pour les paysans. La paysannerie souffre. Enfin, je crois que votre émission hier l'a bien montré. Donc, il y a véritablement à repenser le modèle agricole. Et de l'autre côté, il est important que la consommation change et que cette consommation prenne acte de des dérèglements qu'elle a quand même occasionnés. Quand on pense qu'en Europe, aujourd'hui, 70% de la consommation est le fait de la grande est achetée en grande distribution, et on sait que cette grande distribution nous apporte des produits venus du monde entier. Je pense qu'on peut évoquer ce fameux yaourt tels que les avait étudiés l'université de Stuttgart, les fraises, yaourt aux fraises, fraises produits à Stuttgart, lait produit à Stuttgart, et pourtant 3000 km au compteur lorsqu'il arrive dans l'assiette du consommateur. Donc on est clairement sur un moment où, sans aucun doute, l'alimentation est totalement partie prenante des questions environnementales, mais aussi plus globalement sociales, et qu'il y a donc un tournant nécessaire.
Par ailleurs, ce sont des questions qu'on se pose depuis un moment. Vous aviez écrit, Monique Poulot, tout un article consacré à l'invention, l'émergence et puis la diffusion du terme de locavorisme. D'ailleurs, peut-être vous allez nous expliquer pourquoi c'est celui qui a retenu en particulier votre attention, parce qu'on parle de manger local, on parle de circuit court et vous insistez beaucoup sur le locavorisme. En réalité, derrière l'émergence de ce terme, c'est ce que vous semblez dire, dans un premier temps en tout cas, il n'est pas forcément question de défense de l'environnement. C'est autre chose, en tout cas dans un premier temps, c'est la remise en cause précisément du système globalisé précisément qui est particulièrement décrié aujourd'hui. C'est ça.
Alors, si on revient en effet sur l'invention du terme locavorisme, alors j'ai choisi ce terme avant tout parce que en effet il y a eu à un certain moment beaucoup d'intérêt sur ce terme.
Oui,
il y a un succès médiatique. Je pense qu'aujourd'hui on est plutôt dans le local que dans le locavorisme. Je pense que c'est aussi parce que les Français s'y retrouvent mieux dans le local que dans le locavorisme. Mais en effet, on est sur, au départ, quand on regarde l'invention du locavorisme, dans cette idée de produits de bonne qualité, de produits qui vont recréer du social. Donc on est plus en effet dans des normes un petit peu différentes. Hein. Ce n'est pas de l'environnement, je suis d'accord. Même si je prends le cas américain, on est dans ce mouvement qu'on appelait « back to the land », c'est-à-dire ce retour à la terre d'une petite paysannerie ou d'une paysannerie moins encline à couvrir des superficies aussi importantes. Donc c'est vrai qu'on est dans cette idée d'une alimentation qui ferait vivre ou qui serait en lien avec une agriculture de petite taille, une agriculture à taille humaine. C'est peut-être plus la taille humaine en fait qui est intéressant là-dedans. C'est ce lien très fort entre alimentation et ce qui est proprement humain, puisqu'au final on est bien dans un besoin fondamental de l'homme. Quoi.
Vous dites, Monique Poulot, qu'aujourd'hui on parle plus de local que de locavorisme. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce glissement sémantique? Parce que quand on défend le principe de la consommation d'aliments produits dans son entourage proche, on peut assez rapidement glisser vers une forme de préférence précisément au local par rapport au distant, avec le risque que finalement ce qui est éloigné, ce qui est lointain devienne un peu suspect, en tout cas qu'on le discrimine. Est-ce que précisément ce glissement sémantique, il y a aussi derrière une forme de rejet de l'autre et donc une forme de xénophobie?
Alors ça, c'est en effet une des questions, à mon sens, tout à fait fondamentales aujourd'hui. Alors pourquoi ce glissement? J'ai essayé de répondre, même si c'est pas simple. Ouais. Hein, on est bien d'accord, c'est pas des notions très simples. Bon, il me semble que le terme locavorisme a du mal à prendre en France. Il a du mal à prendre parce qu'on a du mal à voir ce que l'on met derrière. On est peut-être dans une notion véritablement de manger, enfin d'ingérence, d'ingestion plutôt de la nourriture. Alors que dans le local, on est dans autre chose. On est dans cette idée aussi de ce lien entre ville et agriculture. Je pense que c'est ça qu'il y a derrière, pour moi, ce glissement entre les deux. Alors, après, je suis tout à fait d'accord que le risque, c'est qu'est-ce que le local ? Est-ce que le local, c'est un cercle de 10 km ? Est-ce que c'est un cercle de 100 km ? Est-ce que c'est un cercle de 500 km ? Et c'est peut-être...
Est-ce que c'est ce que produit mon entourage à moi ? C'est-à-dire mon voisin, mon cousin, mon...
Voilà. Est-ce que c'est ce que moi j'appelle local ? Parce qu'au final, toutes les enquêtes montrent bien que chacun met derrière le terme local des choses différentes. Et c'est en ce sens, bien sûr, qu'on peut aller vers de l'entre-soi, avec tous les dérives que l'on peut imaginer. On l'a vu pour les AMAP. Vous parliez tout à l'heure des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Les AMAP produisent forcément, ou produisent assez logiquement de l'entre-soi, à plusieurs niveaux d'ailleurs. Ça pourrait être entre le groupe de consommateurs, entre le groupe de consommateurs et l'agriculteur que l'on va choisir, préférer, pour des raisons évidentes, etc. Bon, et puis ça pourrait aller, à mon sens, aussi dans une autre direction. Est-ce que tous les espaces ont la possibilité de produire? Et dans ce cas-là, on rentre... dans des espaces avec des possibilités de friction. Il est clair qu'en effet, j'habite la montagne, je n'aurai sans aucun doute pas la même possibilité d'avoir tous les types de cultures que si j'habite dans une plaine tempérée, qui plus est, avec des températures et un climat clément.
Alors justement, ça c'est intéressant, Monique Poulot, parce que ce qu'on voit là derrière le développement de ces circuits courts, c'est cette idée, cette ambition, ce désir qu'on va tout régler, parce que il y a effectivement bien sûr des effets dévastateurs des modèles actuels, mais que d'une certaine manière le retour au local va absolument tout régler. Or, vous le dites, et vous avez raison, au niveau local, il y a aussi des conflictualités sous-jacentes. Alors est-ce qu'il n'y a pas une forme de piège, c'est-à-dire est-ce qu'on ne serait pas un peu aveuglé par cette idée qu'il n'y aurait que des avantages derrière le local?
Alors oui, sans aucun doute, mais bon, est-ce qu'on n'est pas dans des mouvements browniens, je ne sais pas comment les appeler, dans la mesure où il est très clair que pendant longtemps on a pensé que l'internationalisation était le seul moyen, et aujourd'hui on est à un retour tout au local.
Bon, c'est dangereux?
Pour moi, c'est dangereux.
Il y a deux chercheurs américains qui pour moi, pointent du doigt précisément ce danger-là. Ils parlent du piège du local, local trap, le chercheur de Washington.
Oui, pour moi, c'est quelque chose de dangereux. Alors, c'est dangereux à plusieurs niveaux. Bon, un niveau qui vous intéresse moins, qui est peut-être le niveau des chercheurs, puisqu'à final, on ne travaille plus que ça. Et pratiquement sur rien d'autre, alors que malgré tout, 98% de la nourriture mondiale est d'ailleurs. Donc ça, c'est un des dangers, à mon sens, parce qu'on va à terme manquer de connaissances sur le reste. Et puis, un danger de croire que le local peut tout résoudre. À mon sens, il est un élément, mais pour ma part, moi je milite malgré tout pour, je dirais, des formules hybrides, c'est-à-dire que au final, on aura une alimentation locale, mais on aura aussi une alimentation qui vient d'espaces plus distants, aussi parce que c'est nécessaire, enfin même au niveau des grands équilibres mondiaux.
Monique Poulot, essayons de regarder les avantages derrière ce locavorisme. D'abord, s'agissant de l'avantage écologique. Alors, il y a deux manières de voir les choses. D'un côté, certains nous expliquent que Évidemment, revenir au local, ça permet d'économiser des émissions de gaz à effet de serre. Et effectivement, quand on voit que parfois on nous vend des haricots verts qui viennent du Kenya, on se dit que de toute évidence, le transport a dû coûter extrêmement cher et donc c'est pas très malin. Mais en même temps, est-ce que les tomates que j'ai achetées, qui ont été produites à 20 km de chez moi dans des serres chauffées, sont réellement plus intéressantes que si on les avait produites à 1000 ou 2000 km d'ici en Espagne, et malgré le transport. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir avec ça, Monique Poulot? Et est-ce qu'on a un moyen de mesurer finalement ce que, effectivement, va coûter d'un point de vue carbone ce qu'on produit?
Alors, c'est vrai que j'ai envie de dire qu'actuellement, il n'y a pas de données véritablement fiables sur, ou tout du moins nettes, sur le bilan carbone ou le bilan énergétique du local par rapport à une alimentation plus mondiale. Je ne suis pas sûre que ce soit peut-être vers là qu'il faut se diriger, ou c'est peut-être pas là l'élément le plus intéressant. Par contre...
Pourtant, pour le consommateur, il faut bien
comparer. Oui, mais par contre, on va avoir un moindre emballage. On va avoir... Et cela, c'est peut-être aussi ce qui peut faire la différence. Je pense qu'il ne faut quand on évoque un bilan carbone ou un bilan énergétique, il faut être plus global que le simple produit. Il est clair que là, avec du manger local, on a beaucoup moins d'emballage. On a aussi peut-être un peu plus de transparence sur les circuits. Et je pense que c'est peut-être l'analyse trop strictement écologique, dissociée d'une analyse sociale ou économique, en quelque sorte, qui pose problème. Moi, je pense que là, alors, même si je n'aime pas trop le terme de développement durable, qui est un mot valise, on est peut-être... il conviendrait d'analyser véritablement les trois entrées. Le local a des avantages écologiques, alors, avec toutes les nuances que je viens d'indiquer. Il a des avantages sociaux, peut-être importants. Plus important qu'on ne l'imagine, et puis des avantages aussi économiques. Voilà. Et alors, c'est véritablement, moi, dans ces trois-là, dans ces trois entrées, qu'il me semble qu'il faut analyser le local, sauf à en perdre, en quelque sorte, le sens.
Alors, si on intègre, Monique Poulot, comme vous le faites, comme vous le demandez, la question économique, il y a aussi là deux approches divergentes sur le plan de l'intérêt économique. D'un côté, on a ceux qui expliquent que finalement, le local, ça permet à tout le monde de faire des économies parce que le producteur court-circuite la grande distribution qui lui mange ses marges et les consommateurs aussi qui, in fine, eh bien, seraient également gagnants parce qu'ils ne payent pas précisément le coût du transport, mais aussi le coût de la distribution, le coût du marketing, etc., etc. Et puis, on a ceux qui expliquent qu'en réalité, ce locavorisme, il provoque des surcoûts et que à la fin, tout le monde n'a pas les moyens de s'y convertir. Alors, est-ce qu'on peut là aussi essayer de mesurer les choses, de voir ce que ce locavorisme permet et ne permet pas? Est-ce que c'est effectivement un deal gagnant-gagnant ou est-ce qu'il est réservé quand même à certains et aux plus aisés en particulier?
Alors, bon, je pense que la plupart des études que l'on a faites sur les AMAP sont... Enfin, je prends surtout ce cas-là parce qu'au final, c'est là-dessus que l'on a le plus travaillé. On est quand même, en effet, dans des populations CS+, comme on les appelle, pour faire vite. Bon, par contre, il me semble que sont moins médiatisées des opérations ou des manières de faire dans des espaces alors plus ruraux, je vais revenir à mes amours premières, ou à des petites villes, et où là on constate que le phénomène est beaucoup moins bobo, si j'emploie ce terme qui est devenu pratiquement standard. On constate qu'en effet on va avoir là des populations beaucoup plus modestes qui vont avoir un recours au local, parce que là, on va avoir les vertus du produit de saison, du fait que l'on connaît l'agriculteur du coin. Alors, je pense qu'en effet, la grande difficulté n'est-elle pas non plus dans le gigantisme de nos villes qui amène des distances absolument nécessaires entre les lieux de production et les lieux de consommation, d'un certain point de vue. Alors que dès que l'on est dans des organismes urbains de plus petite taille, on ne va pas avoir ce véritable problème et les coûts, ou tout du moins les prix, ne seront pas fondamentalement plus élevés. Je pense que là, on a de grosses différences. Il conviendrait de mener des analyses à à plusieurs niveaux, pour voir véritablement est-ce que c'est gagnant-gagnant dans ces organismes, je dirais, de plus petite taille.
Ça n'a pas été mené encore, ce genre d'études ?
Très peu. On a assez peu d'études là-dessus. On a cette impression, hein, voilà, d'après les études que l'on a, on voit bien apparaître ces formes, alors je dirais d'ailleurs peut-être plus une forme qui, moi, me semble tout à fait intéressante, qui est le point de vente collectif. Le point de vente collectif des agriculteurs qui se réunissent et qui vont créer donc un magasin de vente collective. Ce point de vente collectif qui d'ailleurs va être installé parfois, pourquoi pas, à proximité du supermarché, puisqu'ils vont bénéficier du parking qui va être là. Et alors évidemment, ce n'est pas peut-être un lieu qui fait rêver. Ce n'est peut-être pas le lieu que l'on imagine pour avoir cette alimentation locale. Mais au final, on constate que là, on va avoir des populations plus modestes, en quelque sorte, plus conscientisées, et sans aucun doute des procédures gagnant-gagnantes qui vont être plus importantes.
Toujours sur Monique Poulot, ces modalités de la distribution, ce réseau de distribution, parce qu'il y a plusieurs manières, finalement, d'avoir accès à ces circuits courts. Il y a la forme un peu coopérative et donc, d'une certaine manière, un peu supermarché spécialisé dans le local. Il y a le système du point relais, il y a le système aussi où tout simplement le consommateur va directement chez le producteur, à la ferme. Il y a plusieurs choses. Finalement, qu'est-ce qui semble aujourd'hui s'imposer ? Est-ce qu'il y a un modèle qui semble particulièrement adéquat ? Est-ce qu'on va vers un paysage où en réalité on a une mosaïque de possibilités et alors qu'est-ce que représente chacune de ces, justement, de ces options ?
Alors, on a une mosaïque de possibilités. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de formes de circuits courts. Je pense qu'il serait intéressant aussi de les lire dans une analyse quasi diachronique. On a eu des formes anciennes qui ressurgissent aujourd'hui, puis des formes totalement nouvelles. Donc, dans les formes anciennes, on aurait les marchés de plein vent, comme on les appelle, avec des maraîchers qui viennent. On a la vente à la ferme, qui a toujours été quelque chose qui s'est fait jusque dans les années 50-60, pour faire vite. Et puis, on a les formes nouvelles. Alors, les formes nouvelles, les points de vente collectifs, qui sont malgré tout des formes nouvelles, parce qu'au final, il y avait assez peu de liens entre agriculteurs. Et puis, ces formes dont on parle le plus parce que le consommateur devient le fameux consommateur, comme on l'appelle. Et voilà. Donc, c'est vrai que ce sont des éléments qui sont importants de noter. Et je pense que chaque forme a sans aucun doute ses avantages, mais aussi peut-être des inconvénients. Mais par contre, que au final, on a quand même l'impression que le consommateur aujourd'hui, ceux qui veulent manger local, et pas seulement les plus favorisés, vont avoir recours à de multiples formes. Je pense que l'hybridité des modalités de consommation est véritablement quelque chose de très important. On a fait des études, notamment dans le périurbain francilien, le périurbain plutôt privilégié, celui de l'ouest francilien. Mais si on s'éloigne justement sur les franges de l'Eure, on est moins dans les privilégiés, et on voit véritablement des populations qui vont utiliser la totalité des moyens sans abandonner totalement la grande distribution. Parce que c'est peut-être ça aussi, quand même.
Alors, on va justement aborder dans un instant l'agriculture urbaine, qui est évidemment l'un de vos sujets de prédilection, si je puis dire. Mais si on revient un tout petit peu sur un terme que vous avez utilisé, vous avez parlé de consommateur. Mm-hmm. Parce qu'en réalité, derrière ce terme-là, il y a aussi l'idée de se réapproprier son système d'alimentation. Et d'une certaine manière, il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'une demande de démocratie alimentaire, si on peut le dire comme ça. La question que je me pose, c'est, vous disiez tout à l'heure à propos des AMAP que c'était essentiellement des populations bobos qui y sont, mais la question qui se pose aussi, c'est qui est-ce qu'on trouve derrière précisément ces réseaux de distribution ? Est-ce que effectivement on voit que l'organisation, que la gouvernance de ces réseaux-là est tenue par, disons, des classes plutôt favorisées, ou est-ce que effectivement tout le monde peut y participer et effectivement, ça permet de revitaliser cette démocratie alimentaire.
Alors, en ce qui concerne la démocratie alimentaire, on est sans aucun doute dans une concentration dans une fraction de la population. On constate notamment qu'au niveau de ceux justement qui vont monter des AMAP, on est dans des populations, alors je dirais pas forcément les CSP++, mais je dirais plutôt dans une élite culturelle.
Ouais.
On est là-dedans, hein, voilà. Je pense que c'est très clair, on voit... par exemple, le succès de ces formules dans les universités, dans les lycées, et puis
y compris dans les coopératives agricoles, où en réalité, ce sont les acteurs locaux qui sont les plus informés.
On est véritablement dans plus exactement dans ce. C'est pas tant ce peut-être les catégories socio-professionnelles, j'ai envie de dire, que le fait que l'on soit conscient des possibilités de choix. Parce que c'est aussi ça. Est-on véritablement conscient des possibilités de choix et peut-on choisir, hein, on est bien d'accord. Hein. Je disais tout à l'heure qu'une partie de la population paraît nomade en matière de consommation alimentaire. Je pense que c'est véritablement le mot. En sachant malgré tout que, par exemple, qui sait ou qui connaît exactement le réseau de fermes ouvertes le réseau de fermes qui vendent. On constate que ce n'est pas de l'information si facilement accessible que ça. Sans aucun doute, les organisations agricoles n'en font pas assez sur le domaine.
Vous voulez dire quoi ? Il y a un travail à faire de la part de la puissance publique.
Il y a un travail à faire très fort de la puissance publique. On constate qu'en effet, quand on s'installe dans des espaces, hein, je repense toujours à ce périurbain francilien, on a énormément enquêté de personnes qui ont du mal à connaître les possibilités alimentaires de leur espace. Et forcément, quand on ne les connaît pas, la seule qui vient à l'esprit, c'est la grande distribution, c'est le plus simple. Arriver à connaître ce réseau, le réseau des marchés, le réseau des fameux points de vente collectifs qui n'est pas si public que ça. Voilà, là je pense véritablement qu'il y a en effet la nécessité d'une intervention de la puissance publique.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qui pourrait marcher ?
Alors, ça c'est une question, à mon avis, je ne sais pas si j'ai les moyens de vraiment de vous répondre. Je pense quand même que on constate que le phénomène change en lien avec peut-être à différents moments de la vie et c'est important parce que les gens vont être conscientisés à différents moments de leur vie et ça joue énormément. Je vais militer pour les femmes. On constate notamment que les femmes, lorsqu'elles vont avoir des enfants, sont parmi celles qui vont véritablement s'informer, faire ce travail d'information, quitte ensuite à le diffuser plus généralement. Donc là, on voit apparaître... ce sont des initiatives qui peuvent paraître très faibles d'un certain point de vue. Mais à mon sens, on est véritablement là-dedans, dans cette nécessité d'aller vers des relais, des acteurs, et puis ensuite de la puissance publique qui devrait, en termes de... Enfin, on pourrait se poser quand même la question pourquoi les sites des mairies sont aussi peu renseignés sur les lieux de vente autres que les lieux de vente de la grande distribution ou des magasins de centre-ville.
Voilà, donc un travail à faire.
Il y a un travail à faire.
On va avancer dans un court instant, on va retrouver Kevin Morel et on va parler avec lui des micro-fermes urbaines. Mais justement, je voudrais aller droit au but, si je puis dire, Monique Poulot. On parlait d'inégalité vis-à-vis de l'accès justement à ces circuits courts. S'agissant de l'agriculture dans la ville, l'agriculture urbaine, il y a eu, c'est vrai, ces dernières années, un certain nombre d'initiatives en la matière. Il y a eu des petits potagers et autres jardins partagés qui sont développés beaucoup, notamment d'ailleurs à la faveur de la crise et de la désindustrialisation. On a pu le voir du côté de Détroit, on a pu le voir du côté de Lisbonne. Enfin, il y a plein d'endroits. La question est la suivante. Est-ce que... à qui ça profite vraiment ? Est-ce que vraiment ça profite ce développement de cette agriculture urbaine aux plus pauvres, ou est-ce qu'on se rend compte qu'en réalité ça peut aussi se faire, ça peut aussi, alors pas forcément les desservir, mais moins les servir qu'on pourrait l'espérer, Monique Poulot.
Oui, alors c'est vrai que les premières initiatives d'agriculture urbaine ont été, à mon sens, des initiatives plutôt de populations pauvres qui essayaient de se réapproprier un moyen de s'alimenter. Le cas de Détroit, le cas de Lisbonne le montre bien. Je pense qu'on l'a vu aussi au niveau d'un certain nombre de projets de jardins. Moi, je trouve ça très intéressant, notamment en termes de... Alors un mot qu'on n'aime pas en France, mais qui est l'agriculture ethnique. Au final, on ne sait pas très bien faire en France. Et les jardins ont été un moyen de faire revivre cette agriculture ethnique, l'alimentation étant sans aucun doute un des éléments très forts des cultures qui ne disparaît pas. Mmh. Le second mouvement, aujourd'hui, est un mouvement qui va sans doute... Alors on a eu ça, j'allais oublier, il y a eu un deuxième temps qui a été peut-être des initiatives communautaires, plus larges, des associations qui sont allées vers ce qu'on pourrait appeler des fermes communautaires, un petit peu à la manière américaine. Et je trouve qu'on est arrivé aujourd'hui dans un troisième temps qui est l'arrivée d'entreprises sur le sujet, des start-up, je crois qu'il faut aussi employer le terme, qui vont vers de nouvelles logiques dans cette agriculture urbaine. Il est clair que c'est une agriculture urbaine qui exige...
Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les plus
défavorisés. On peut le dire comme ça. C'est sûr qu'un certain nombre de projets annoncent des prix de produits qui ne sont pas acceptables.
Peut-être que justement ce glissement, on va pouvoir l'observer en allant du côté de Londres, où il y a eu beaucoup de micro-fermes qui se sont développées ces dernières années. On est avec vous pour parler de cette question de l'alimentation, du locavorisme, du manger local. Monique Poulot, dans cette série consacrée à la nourriture, se nourrir, vieux problèmes, nouveaux défis, direction Londres.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Les promoteurs immobiliers de ce site nous ont donné 6 bennes à ordures, ce qui nous permet d'y faire pousser différentes cultures et d'apprendre aux gens à jardiner, particulièrement aux enfants, en attendant que les travaux commencent. Une fois que ce sera le cas, nous déplacerons ces bennes vers un autre site. Mon travail, c'est de montrer aux gens qu'on peut faire pousser des cultures n'importe où. La plupart des gens pensent qu'il faut un grand jardin et beaucoup d'espace pour bien vivre. Ce que j'essaye de montrer, c'est que les cultures qu'on fait pousser ici sont très variées. Les Londoniens peuvent très bien le faire dans leur tout petit jardin. L'une des bonnes raisons pour faire pousser des légumes bio, c'est de renouer avec les saisons. La plupart des Londoniens meurent d'envie d'apprendre, mais il y a un problème de sensibilisation et on ne peut régler ce problème qu'avec des projets pédagogiques.
Voilà, extrait d'une vidéo réalisée par Chloé Musson en 2011 à l'occasion du week-end de l'ouverture des jardins de Londres. On entendait notamment Paul Richens, un manager et designer de l'association du développement durable Global Generation. Alors, quelle est l'ambition de ces micro-fermes? Quel public accueillent-elles? Quelle place ont-elles dans le développement des circuits courts? Bonjour Kevin Morel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ingénieur agronome chargé de recherche à AgroParisTech et vous avez consacré justement votre thèse à la viabilité des micro-fermes biologiques à partir de plusieurs cas et notamment du côté de Londres. Première chose que vous avez remarqué, Kevin Morel, c'est que en réalité, il y a micro-fermes et micro-fermes du côté de Londres avec des objectifs et des visées totalement diverses. C'est-à-dire qu'on a parfois certaines fermes qui se concentrent essentiellement sur les enjeux sociaux, d'autres sur les enjeux pédagogiques, d'autres encore sur la question de la viabilité économique qu'évoquait à l'instant Monique Poulot. Donc le paysage est en réalité assez pluriel.
Oui, tout à fait. Alors déjà, je suis chargé de recherche à l'INRA, et même si c'est une unité avec AgroParisTech, mais mon employeur va pas être content.
Très bien, voilà, ça c'est dit.
Il n'y a pas de problème. Oui, effectivement, je pense que c'est très important de garder ça en tête, et ça on le voit particulièrement à Londres, mais je pense que c'est présent dans la plupart des métropoles, c'est il faut garder l'idée qu'il y a vraiment une diversité. Et par rapport à la question du local, hein, vous évoquez nos collègues qui parlent du piège du local, en fait le piège qu'ils dénoncent, c'est de dire le local... c'est ça ou c'est ça. En fait, il n'y a pas un local, il y a une diversité de locales et c'est à chaque fois plutôt de voir le local comme un moyen plutôt qu'une fin en soi. Et en fait, en fonction du contexte, en fonction des objectifs, on peut avoir des impacts qui sont assez différents. Et donc du coup, sur ces micro-fermes urbaines, effectivement, à Londres, il y a ce dont parlait Monique tout à l'heure, effectivement des start-up qui vont avoir un objectif avant tout économique, qui sont des très petits espaces disponibles disponibles en ville, donc ils vont plutôt favoriser par exemple des cultures à très forte valeur ajoutée, comme des jeunes pousses, de la salade, qui vont être vendues de manière assez chère à des restaurants et clairement viser un public de luxe.
Pardon, mais ça, Kevin Morel, ça marche, c'est-à-dire que cet objectif économique, il est tenable, on peut effectivement mettre en place une stratégie qui permet de faire des bénéfices, comment on fait ?
Eh bien, il y a des gens qui font ça.
Comment ?
Si on réduit en enchaînant sur une très petite surface, la stratégie, ça va être de maximiser l'utilisation de ces surfaces. Donc, on va choisir des cultures qui vont avoir des cycles très courts. Donc, on va pouvoir les enchaîner au cours du temps. Donc, on peut avoir jusqu'à quasiment 6-7 cycles de culture dans l'année, avec des produits qui vont être extrêmement frais, comme par exemple des épinards, des jeunes pousses, de la salade. Et si c'est vendu à des restaurants à des prix élevés, ça, on peut, dans certains cas, effectivement, atteindre une viabilité économique.
C'est ce que vous appelez la stratégie du mesclin.
Oui, c'est la stratégie du mesclin. Mais je dirais que c'est assez marginal, en fait, cette stratégie. Enfin, elle existe, elle s'adopte de plus en plus. Mais quand même, en tout cas, en Angleterre et à Londres en particulier, je pense que beaucoup de ces initiatives d'agriculture urbaine sont liées au mouvement des villes en transition. Hein, les villes en transition, on va dire que c'est une dynamique urbaine qui vient au départ de la permaculture, avec l'idée vraiment que les gens se réapproprient aussi l'espace public avec des questions aussi sociales, d'éducation populaire. Mmh. Et donc, la plupart des micro-fermes que j'ai vues à Londres, au-delà de cette start-up, il y avait souvent vraiment une volonté plutôt d'être des supports de pédagogie, d'éducation à l'alimentation et aussi de viser des publics beaucoup plus défavorisés. Donc, je travaillais avec des micro-fermes, par exemple, dans la périphérie de Londres, dans les quartiers de la dernière couronne de Londres. Et clairement, eux, leur objectif, c'était avant tout de toucher ces catégories les plus faibles qui étaient touchées par des problèmes d'obésité. Donc, ils venaient venir les enfants sur les fermes, ils apprenaient à jardiner, ils parlaient d'alimentation.
Et ça marche ? Ça marche ?
Et ça marche. Alors ça marche, ça dépend aussi comment on voit son modèle économique. Du coup, ces fermes-là ne sont pas uniquement des fermes dont la production va assurer la viabilité économique. C'est des fermes qui sont, on va dire, multi-services et dont la vocation première peut être justement plus ces différents services qu'elles vont rendre à la communauté. Donc, par exemple, l'éducation, mais c'est aussi des aspects de récréation, d'ombrage. Mmh. Avec le réchauffement climatique, on va avoir des villes de plus en plus intenables en été. Il y a des études qui montrent qu'elles ont vraiment un rôle important dans la réduction des îlots de chaleur, par exemple. Donc, elles ont de multiples fonctions à remplir autre que la production alimentaire.
Oui, et puis il y a aussi des micro-fermes qui combinent un peu tout ça. On fait à la fois de la pédagogie, on veut faire de l'argent, mais on veut que ça profite aussi aux plus défavorisés. Hein. Vous racontez qu'il y a certaines fermes qui développent un compromis qui consiste à vendre à bon prix une partie de leur production et qui proposent des prix beaucoup plus faibles aux plus défavorisés. C'est ce que vous appelez là la stratégie Robin des Bois. Donc on comprend bien de quoi il s'agit. Vous restez avec nous, je voudrais peut-être entendre Monique Poulot sur cet exemple londonien des micro-fermes.
Alors c'est un bel exemple, Londres, mais je pense qu'on pourrait généraliser véritablement cet exemple à peu près partout. Hein. Londres, là-dessus, a été peut-être un peu plus suiviste, d'ailleurs, que d'autres villes. Je pense que le meilleur exemple que l'on pourrait prendre, ce serait des villes, en New York, peut-être, en premier lieu, Montréal, qui a été sans aucun doute une des villes
qui
en font depuis longtemps. Voilà, on a une profondeur historique, sans aucun doute, avec, en effet, ces plusieurs types de fermes, ces micro-fermes qui peuvent être des jardins, je vais les appeler comme ça, simplement des jardins familiaux, enfin les ex-jardins familiaux, mais aujourd'hui d'autres types de jardins. Ces fermes communautaires, moi j'aime bien le terme ferme communautaire parce que on est bien dans cette idée d'une multifonctionnalité de l'activité avec notamment un rôle éducatif important. Et puis ces fermes qui fonctionnent et qui font des bénéfices. Bon, Kevin parlait de la stratégie du mesclin. Bon, on pourrait prendre d'autres exemples à Montréal comme les Lufa Farm ou autres. Qui ont de très bons résultats, avec là je dirais aussi quelque chose moi qui me paraît très intéressant et qu'on n'arrive peut-être pas bien à faire en France, c'est l'idée d'arriver à réduire le temps de travail de ces agriculteurs. La Lufa Farm notamment se développe avec cette idée forte que la Lufa Farm à Montréal souhaite véritablement que le temps de travail des agriculteurs ne soit pas un temps de travail très long comme il l'est, et il y a véritablement un investissement là-dessus, alors que très souvent dans les micro-fermes qui produisent en France, on est sur des temps de travail qui, à mon sens, ne sont pas acceptables par rapport aux autres catégories socioprofessionnelles.
Kevin Morel, encore une toute dernière question, si vous le permettez. La question de la puissance publique, on en parlait tout à l'heure avec Monique Poulot. Là, en l'occurrence, la ville de Londres. Comment est-ce qu'on fait pour soutenir, accompagner ces projets de microfermes? D'ailleurs, est-ce qu'on les accompagne? Ou est-ce que c'est finalement, tout le monde se débrouille, le libéralisme le plus absolu et... comment ça se passe concrètement, Kevin Morel?
Alors concrètement, ça prend différentes formes. On va dire qu'il y a des, à Londres par exemple, il y a des, la municipalité qui peut, en général ça passe par la mise à disposition de foncier. Parce que si on veut acheter une parcelle de 1 hectare ou 2 hectares à Londres, et pour faire de l'agriculture, ça va difficilement être rentable. Donc on va dire que le premier levier d'action de la puissance publique, c'est de mettre à disposition éventuellement des terres municipales, 1 hectare ou 2 hectares, en échange, on va dire, du fait que la production va être, par exemple, dédiée aux communautés locales, à l'école, etc. Ça se fait aussi en France. Après, il y a des cas où les municipalités essayent d'imposer un peu plus dans leur vision, dans la conception du projet. Hein. On dessinait des zones agricoles comme on dessinerait une zone artisanale et vont un petit peu fantasmer un paysage, je pourrais dire, de polypocket et ensuite vont demander à des maraîchers de s'installer dessus, vont faire une tige de poste. Et en général, ça marche assez peu parce que les gens qui s'installent sur ces fermes urbaines ont une volonté avant tout d'autonomie, de décision, de créer leur espace. Et donc, le meilleur conseil qu'on pourrait donner aux collectivités, c'est de favoriser l'accès aux ressources, aux fonciers, à l'eau, éventuellement à des circuits, mais de laisser les maraîchers plus maîtres de leurs décisions possible. Et
merci.
Le deuxième point important dans
rapidement.
Lequel... Ouais, pardon.
Rapidement, je vous en prie.
Oui, rapidement, dans laquelle la puissance publique peut agir, c'est sur la question de la logistique. On a évoqué tout à l'heure le fait que les circuits courts peuvent avoir un impact carbone réduit, et les études montrent que c'est très variable et que la variable clé, c'est la logistique, c'est-à-dire rationaliser aussi. Quand on a une diversité de circuits courts dans tous les sens, les camions sont pas bien remplis, les gens font des allers-retours partout, et vraiment, à mon avis, le rôle de la collectivité, c'est de planifier et donc réfléchir à une organisation spatiale et un peu rationnelle des circuits courts autour, en tout cas, d'une métropole, pour que vraiment on ait cet effet réduction de carbone qui peut être effectif. Voilà.
Merci beaucoup, Kevin Morel, d'avoir été avec nous ce matin. Nous allons nous pencher du côté du Brésil pour parler du manger local à la cantine. Au printemps dernier, le gouvernement français a annoncé qu'il comptait aider les collectivités locales à privilégier les producteurs locaux dans leur appel d'offres pour la restauration scolaire. Et c'est quelque chose qui travaille le Brésil depuis longtemps. Direction le Brésil.
À partir du moment où les élèves sont exposés à un régime alimentaire différent de celui proposé chez eux, ils ont une éducation essentielle sur ce qu'ils mangeront tout au long de leur vie. Bien entendu, plus tôt cette conscience commence à se former, plus elle se perpétuera naturellement dans leur vie.
Voilà, au Brésil, où depuis 10 ans maintenant, il y a un programme qui est destiné à favoriser l'achat de produits locaux. Bonjour Morgane Retière.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes doctorante en géographie et en écologie appliquée à l'université Paris 8 et à l'université Sao Paulo. Vous consacrez votre thèse aux politiques mises en place pour intégrer des produits locaux dans les cantines scolaires à Paris et à Sao Paulo. Et alors, il existe depuis très longtemps maintenant du côté du Brésil des programmes qui visent à organiser l'alimentation dans les écoles. C'est le programme national de l'alimentation scolaire qui existe depuis les années 50. Mais il se trouve que depuis 10 ans maintenant, depuis 2009, il y a de nouvelles dispositions pour favoriser l'approvisionnement local. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement de quoi il s'agit, que prévoit cette loi et pourquoi est-ce qu'à l'époque on l'avait fait aussi passer, parce qu'il y a peut-être des objectifs qui ne sont pas forcément complètement évidents, Morgane Retière.
Oui, alors effectivement, la dernière loi qui réforme ce programme national d'alimentation scolaire date de 2009, et l'un des dispositifs un peu emblématiques, c'est justement un article qui est consacré au mode d'approvisionnement et qui rend obligatoire le fait que 30% du budget qui est transféré par l'État fédéral aux collectivités locales pour l'alimentation scolaire, donc 30% de ce budget, doit être consacré à l'achat direct auprès d'agriculteurs familiaux ou de leurs organisations. Donc là, on passe, ce qui est obligatoire, c'est un achat direct auprès des organisations, donc sans intermédiaire privé. Et ensuite,
sans intermédiaire privé, c'est ça l'agriculture familiale.
En fait, parce qu'il y a
un moment où il faut le définir du coup.
Alors justement, donc l'agriculture familiale, elle est définie par une loi, enfin qui a disons, la première définition officielle, elle date de 1996, et on a donc donné une définition officielle de ce qu'on entendait par agriculture familiale, avec quatre critères, mais qui principalement limitent la surface, donc c'est plutôt des surfaces, disons, assez petites par rapport à des latifundias. La main-d'œuvre doit être de façon prédominante familiale, et puis la gestion de l'exploitation doit être aux mains de la famille. Donc cette définition de l'agriculture familiale, elle vient en amont et elle va permettre le déploiement d'un certain nombre de politiques ciblées vers ce secteur.
Et alors, je n'ai pas entendu, Morgane Retière, un critère concernant l'environnement. Ça veut dire que cette agriculture familiale, elle n'a pas besoin d'être nécessairement plus vertueuse du point de vue écologique.
Alors, justement, c'est-à-dire que dans ce qui est obligatoire, non, il n'y a pas de critère là-dessus. Mais après, en fait, au niveau de l'arbitrage entre différentes propositions, donc la collectivité va faire son... Alors, c'est pas un appel d'offres, puisque le prix n'est pas un critère. Le prix est fixé en amont. Et donc, la collectivité va faire un appel pour, voilà, tant de salades livrées à tels endroits, etc. Et donc, les producteurs vont répondre à ces appels publics. Et le premier critère de départage, ça va être le local. Donc, le plus local gagne. Et ensuite, il faut privilégier si, disons, on a des... à niveau de à distance égale, on va privilégier le bio par rapport au non bio.
D'accord. Et alors, est-ce qu'on arrive vraiment à l'appliquer, Morgane Retière, parce que sur le papier, tout ça a l'air vraiment formidable, mais je pense en particulier aux très grandes villes. Est-ce que à São Paulo, est-ce qu'à Rio, est-ce qu'à Brasilia, est-ce qu'on arrive effectivement à appliquer cette loi qui est quand même assez contraignante? Il faut avoir effectivement dans son environnement direct des producteurs qui vont pouvoir vous fournir.
Ouais. Alors, ce qu'on observe, donc, il y a beaucoup d'études qui sont plutôt des études de cas sur des communes assez localisées. Donc, c'est assez difficile d'avoir des études, disons, systématiques, et notamment sur ce croisement justement entre l'application de la loi et puis des facteurs territoriaux, les types de villes, etc. Mais en tout cas, au niveau global, on a quand même eu une progression effectivement du nombre de communes qui appliquaient la loi. Donc là, aujourd'hui, on est à peu près, un peu plus de 50% des communes qui appliquent cette loi. Et effectivement, il y a une grosse, si on regarde la spatialisation un peu de cette application, c'est surtout dans les États du Sud du pays, là où justement l'agriculture familiale est déjà la plus structurée, qu'on voit le plus de communes qui arrivent à réaliser un pourcentage important d'achats directs auprès de l'agriculture familiale. Alors dans le cas de São Paulo, que moi je connais bien, il y a quand même eu des efforts faits pour mettre une équipe dédiée, une équipe notamment composée d'agronomes, d'ingénieurs forestiers, donc des gens plutôt du secteur agricole, pour essayer de réfléchir à ça et mettre en place un approvisionnement direct auprès de l'agriculture familiale. Et là, c'est plutôt, c'est-à-dire que il y a des produits qui peuvent venir finalement d'assez loin, même s'ils viennent directement de coopératives de l'agriculture familiale. Donc on a du riz qui vient du Paraná, qui est à peu près à 1200 km, du jus de raisin qui vient du Rio Grande do Sul, qui est à quasiment 3000 km. Donc voilà, donc là on a des distances plus élevées, mais c'est lié aussi effectivement comme... on disait les caractéristiques logistiques des grandes métropoles, quoi.
Et est-ce que ça a aidé l'agriculture familiale? Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'évidemment, il s'agissait d'abord peut-être de permettre de diversifier l'alimentation et d'améliorer la qualité nutritionnelle des restaurants, des écoles, mais il s'agissait aussi de soutenir un secteur qui à l'époque était en crise, qui l'est encore aujourd'hui. Ça a permis de le faire. L'agriculture familiale brésilienne se porte mieux grâce à cette mesure?
Alors,
très rapidement, parce que je voudrais qu'on parle de la France.
Très bien. En fait, très rapidement, effectivement, c'était une mesure, l'idée d'utiliser la restauration, les achats publics pour des achats auprès de l'agriculture familiale, c'était une revendication portée par des organisations rurales. Donc c'est une revendication à ce niveau-là. Après, de savoir si effectivement cette politique a favorisé améliorer les conditions des agriculteurs familiaux, c'est dur à dire. En tout cas, par rapport aux autres, la mesure phare qui accompagne cette mesure-là, ce qui est le PRONAF, c'est plutôt des crédits agricoles. Là, on voit quand même que ça bénéficie plutôt des agriculteurs déjà capitalisés et structurés, quoi.
Morgane Retière, maintenant regardons du côté de la France. Il se trouve qu'il y a quelque temps, il y a une nouvelle loi qui est passée pour essayer de favoriser justement les circuits courts. Les circuits courts d'ailleurs et les produits bio. Je crois qu'il y a les deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit? Ça sera pas tout de suite, ça sera à compter de janvier 2022. Comment est-ce qu'on va s'organiser et quel regard justement vous portez sur cette nouvelle réglementation au regard de cette expérience brésilienne?
Alors, ce qui est intéressant dans l'expérience brésilienne, c'est qu'il y avait effectivement cette mesure qui était déjà très précise, c'est-à-dire qu'on avait un seuil de 30% qui était obligatoire, avec un contrôle de la part de conseils municipaux multipartis, non seulement des membres de l'exécutif local, mais aussi de la société civile, etc. Donc, il y avait un vrai contrôle et une vraie injonction, enfin, c'était coercitif, quoi, c'était obligatoire. Et donc l'autre aspect que je trouve intéressant...
C'est pas le cas pour la France ?
Alors, parce qu'en fait, dans le Grenelle de l'environnement, dans la loi Grenelle 1 de 2009, il y avait une recommandation. Donc, effectivement, maintenant, ça va devenir coercitif. Donc, on peut déjà penser que c'est. Mais il faut savoir faudra aller voir quelles seront les façons de contrôler ça, de contrôler si la loi est appliquée. Et juste le deuxième point qui me semble très important dans l'expérience brésilienne, c'est que c'était pas une mesure isolée. C'est-à-dire qu'on avait, ça venait quand même dans le paquet de toutes les politiques pour l'agriculture familiale. Et il y avait notamment un certain nombre de conseillers techniques qui aidaient, qui accompagnaient les agriculteurs pour se structurer et pour répondre à ça. Et également le financement de la part de la fédération de centres de recherche et de formation pour les collectivités.
Oui, donc ça faisait partie d'un tout en réalité, c'est ça que vous voulez dire. Morgane Retière, je voudrais peut-être passer la parole à Monique Poulot pour regarder un peu ce cas français et regarder si on va dans le bon sens et jusqu'où nous on peut aller précisément pour soutenir ce circuit court dans la restauration collective. Est-ce que vous avez le sentiment que les mesures récentes qui ont été prises sont les bonnes ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres obstacles ? Parce que nous, par exemple, en France, il y a une attention très forte qui est portée à la question de la libre concurrence. Est-ce que ça risque pas de poser des problèmes. Par ailleurs, Morgane Retière parlait de la difficulté de contrôler, savoir si les acteurs ont bien effectivement suivi les recommandations. Faut-il encore avoir des structures qui permettent de faire ces contrôles ? Qu'est-ce que vous en pensez, Monique Poulot ?
Alors, c'est vrai que la nouvelle loi est intéressante puisqu'elle rend les choses obligatoires alors que jusqu'alors on était dans le possible. La législation a également changé en termes d'appel d'offres parce que je pense que c'était véritablement un des obstacles lorsque Morgane évoquait que le plus local gagne. En France, ça fonctionnait pas comme ça puisque c'était le moins offrant qui gagnait et le moins offrant n'est pas le plus local. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est en train de changer et on voit que les lois évoluent là-dessus, notamment en termes d'appel d'offres. Donc
ça
évolue.
Sens.
Voilà. Et ce que je trouve également par rapport à l'exemple brésilien, c'est que alors on n'est pas dans un ensemble aussi important en termes de soutien à une forme d'agriculture. Néanmoins, on a mis en place depuis 2014 ce qu'on appelle les projets alimentaires territoriaux. Et ces projets alimentaires territoriaux qui vont être pensés à des échelles multicommunales ou métropolitaines essaient d'agglomérer toute une série de mesures qui seraient autant l'achat de terre qu'évoquait Kevin, les cantines scolaires comme l'évoquait Morgane, ou bien d'autres éléments. Donc c'est aussi peut-être cela qui me semble intéressant.
Merci beaucoup à Morgane Retière qui était à l'instant avec nous par téléphone. Un grand merci à vous, Monique Poulot, de nous avoir accompagnés. On poursuivra nos pérégrinations autour de ces enjeux de l'alimentation demain. Mais pour l'heure, on retrouve Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
On a parfois prétendu que l'ère de la post-vérité et des faits alternatifs avait été ouverte par la philosophie de la déconstruction, Brice.
Eh oui, je m'en suis fait l'écho moi-même dans plusieurs chroniques ici. Oui, certains ont accusé le courant intellectuel qu'on appelle déconstructiviste aux États-Unis d'avoir fait basculer l'opinion dans une époque dite de post-vérité et permis ainsi à des leaders populistes comme Trump de mettre en avant leurs fameux faits alternatifs. Alors personne évidemment ne prétend que Donald Trump est un lecteur assidu de Derrida. Non, ce qui est en cause, c'est l'ébranlement du concept même de vérité auquel ont œuvré, c'est vrai, les penseurs dits postmoderniste, un mode de pensée qui nie non seulement la possibilité d'un savoir fiable, mais dans les cas extrêmes, la stabilité de la réalité elle-même. À ses yeux, tout est affaire de point de vue. Alors, le fameux psychologue Jordan Peterson résume ainsi le postmodernisme. Une doctrine incroyablement sophistiquée, créée par de brillants intellectuels français, qui comporte deux assertions principales. La première, il existe un nombre incroyable de façons de percevoir et d'interpréter tous les phénomènes qui se présentent à nous. La seconde, toutes ces interprétations de la réalité sont également valables et viables. La première, dit-il, est indiscutable, mais la seconde est fausse. D'autant, ajoute-t-il, que combinée avec une sorte de néo-marxisme, la doctrine en question en arrive à prétendre que, parmi toutes ces interprétations également valables, il conviendrait de privilégier celles qui correspondent aux intérêts des dominés. Steven Pinker, de son côté, le psychologue star qui commence à être bien connu chez nous grâce à la traduction de ses ouvrages « La part de l'ange en nous et le triomphe des Lumières », ajoute un autre argument. En niant la possibilité d'atteindre une vérité objective, de parvenir à un accord sur les termes dans lesquels on devrait décrire les phénomènes, on menace le progrès de la science. Parce que chacun sa vérité, ça signifie l'abandon de fait de la vérité au profit de la lutte pour le pouvoir des identités. Et c'est hélas ce qu'on observe de plus en plus dans les universités américaines. Mais le réquisitoire le plus argumenté contre cette théorie, c'est sans doute celui qu'a publié l'ancienne rédactrice en chef livre du New York Times, Michiko Kakutani, dans son livre non traduit en français. Hélas, pour l'instant, La mort de la vérité, note, c'est le sous-titre, c'était Note sur le mensonge à l'âge de Trump. Elle reproche à Michel Foucault, en particulier, d'avoir mis en question la notion même de vérité et de lui substituer le concept de régime de vérité. L'établissement des faits objectifs est impossible, dit-elle, si toute tentative d'en rendre compte est considérée comme une construction sociale, tributaire des rapports de pouvoir d'une société donnée à une époque donnée. Personnellement, je ne crois pas qu'on puisse accuser Foucault de relativisme, contrairement à beaucoup de ses disciples américains. Parce que ce qui intéressait Foucault, c'était les conditions de possibilités historiques de certains discours savants, rebaptisés par lui « formation discutive », et puis quelles étaient les institutions sociales habilitées, à un moment donné, de poser à poser les critères du vrai et du faux.
Le problème, Brice, vient peut-être qu'on entend des choses bien différentes sous le label du postmodernisme.
Oui, et dans un article récent publié sur Vox.com, Sean Ealing, un brillant journaliste culturel américain, tente de remettre les choses au point. Le premier à avoir théorisé le postmodernisme, dit-il, c'est Jean-François Lyotard, dans son fameux livre de 1979, « La condition postmoderne ». Et Lyotard ne prétendait nullement que la vérité objective avait disparu de l'horizon. Il constatait la crise des grands méta-récits qui avaient servi à donner une cohésion d'ensemble à notre vision du monde, mais faire de lui le porte-parole d'on ne sait quelle renonciation subversive à la notion même de vérité, c'est un contresens absolu. En réalité, loin de célébrer la mise en crise des discours de vérité, Lyotard la déplorait. Selon Ealing, toujours, le philosophe qui a pris le plus au sérieux le constat fait par Lyotard, c'est un autre Français, Jean Baudrillard. Celui-ci a exploré de manière quasi prophétique le fait de vivre dans un monde hyper médiatisé. Baudrillard a imaginé d'avance les effets produits aujourd'hui par les réseaux sociaux. La bataille constante à laquelle se livrent les plateformes numériques pour capter notre attention, écrit Sean Ealing, signifie que nous pouvons désormais choisir la version de la réalité que nous préférons au moment où nous la préférons. Bref, nous avons gagné le triste privilège de vivre dans un monde de simulacres construit pour nous sur mesure. En fait, écrit Sean Ealing, lorsqu'on prétend que les théoriciens postmodernistes ont déconstruit la vérité en montrant que tout discours procède inévitablement d'une construction sociale et que par conséquent Trump, avec ses faits alternatifs, s'est engouffré dans une brèche creusée par un petit groupe de philosophes français des années 70, on commet une erreur fondamentale. Parce que ce n'était pas à la vérité que s'attaquait ce qu'on appelle à présent postmoderniste et qu'on lit si mal, c'était à ce qui passe pour la vérité.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.